Chapitre 2. C'était une magnifique journée pour un enterrement. Des nuages d'un blanc immaculé glissaient dans le ciel bleu azur. En cette première semaine d'avril, l'air était encore frais et sec. Bien sûr, avec la météo capricieuse de Virginie, rien ne garantissait qu'il n'allait pas bientôt se mettre à pleuvoir à torrents pendant 10 minutes, puis qu'à l'averse succéderait une chaleur de plomb. Un chapiteau vert clair abritait les deux cercueils, ainsi que les chaises sur lesquelles étaient assis les proches des défunts. Le pasteur ramassa une poignée de terre sur le tas protégé par un tapis de gazon synthétique, puis il en saupoudra les cercueils. « Car vous êtes poussière, et vous retournerez à la poussière », récita-t-il d'une voix qui résonna dans tout le cimetière, avant d'occulter la traditionnelle conclusion sur la résurrection et la vie éternelle. Le directeur des pompes funèbres s'avança. C'était un petit gros à la peau aussi noire que son costume. Malgré la température, il suait à grosses gouttes, à croire que son corps était réglé sur le calendrier plutôt que sur le thermomètre. « Ainsi s'achève la cérémonie en l'honneur de Derek Jenkins et Isaiah Randolph », déclara-t-il. Sa voix, bien moins puissante que celle du pasteur, peina à atteindre les derniers rangs. « La famille vous remercie d'être venue et vous souhaite un bon retour. » Ike Randolph lâcha la main de sa femme, qui posa aussitôt la tête sur son épaule. Puis, il baissa les yeux, regarda ses propres mains. De grosses mains calleuses qui avaient tenu son fils à peine 10 minutes après sa naissance. Des mains qui lui avaient montré comment faire ses lacets et qui avaient appliqué du baume sur sa poitrine lorsqu'il avait la grippe. Des mains qu'il avait agitées au tribunal pour lui dire au revoir malgré les menottes qui lui enserraient ses poignets. Des mains qu'il avait gardées enfouies dans ses poches le jour où le mari d'Isaiah lui avait tendu la sienne. Ike s'affaissa sur sa chaise. Sur les genoux de Mia, Ariana jouait avec les tresses de sa grand-mère. Ike se tourna vers la petite fille. Une peau couleur miel et des cheveux assortis. Elle avait fêté ses 3 ans la semaine précédant la mort de ses parents. Se rendait-elle seulement compte de la situation? Lorsque Mia lui avait expliqué que ses papas faisaient dodo, elle n'avait pas semblé autrement perturbée. Ike lui enviait cette plasticité du cerveau qui lui permettait de s'affranchir de la réalité.
Ike, c'est notre petit garçon dans cette boîte,
sanglota Mia d'une voix qui le fit frémir.
Notre bébé.
Il avait l'impression d'entendre les couinements d'un lapin pris dans un collet. Autour de lui, les employés des pompes funèbres se mirent à replier les chaises, tandis que les gens se dirigeaient vers le parking. Il sentit des mains lui effleurer le dos et les épaules, perçut des mots d'encouragement bredouillés sans conviction. Non pas parce que ceux qui les prononçaient n'étaient pas sincères, mais parce qu'il savait que ces platitudes ne seraient jamais à la hauteur du chagrin d'un père. Et en même temps, qu'aurait-il pu faire d'autre? Débiter des clichés après l'enterrement faisait autant partie de la tradition qu'apporter un gratin à la veillée funèbre. Il n'y avait pas grand monde à la cérémonie. En moins de 5 minutes, il ne restait plus dans le cimetière que Mia, Ike, Ariana, les fossoyeurs, et un homme qu'Ike identifia comme le père de Derek. Rares étaient les proches d'Ike à avoir fait le déplacement, un constat qui s'appliquait visiblement aussi à la famille de Derek. Ces quelques membres ne passaient pas inaperçus au milieu des hipsters barbus et des jeunes femmes androgynes qui constituaient l'essentiel des amis de Derek et Isaiah. C'étaient des gens maigres au regard dur et au visage buriné par le soleil, dont les joues avaient viré au cramoisi après une demi-heure de sermon, à peu près au moment où le pasteur avait déclaré que Dieu était bienveillant et que tous les péchés étaient pardonnables, y compris les plus abominables. Toujours assise sur les genoux de sa grand-mère, Ariana tira sur une des tresses de Mia.
« Ça suffit !»
s'exclama Mia d'un ton sec. Ariana se figea. Ike savait que ce répit était le prélude à un ouragan de larmes. Isaiah réagissait exactement de la même manière quand il était petit. De fait, Ariana se mit à hurler. Des cris qui brisèrent la quiétude du recueillement et résonnèrent dans les oreilles d'Ike. Mia s'excusa et essaya de la consoler en lui caressant le front. L'enfant prit une grande inspiration avant de hurler de plus belle. « Ramène-la à la voiture et je vous rejoins », dit Ike en se levant. « Hors de question !» s'indigna Mia. « S'il te plaît, » insista Ike. « Dans quelques minutes, tu pourras revenir pendant que je la surveille. » Sa voix manqua se briser. Mia se leva à son tour et prit Ariana dans ses bras.
« D'accord. Dis-lui ce que tu as à lui dire. »
Elle tourna les talons et se dirigea vers le parking. Alors que les pleurs d'Ariana s'estompaient, Ike posa la main sur le cercueil noir au poignet doré. Son fils se trouvait à l'intérieur. Dans cette boîte rectangulaire, empaquetée comme un vulgaire colis. La brise se leva, faisant claquer les franges du chapiteau comme les ailes d'un oiseau agonisant. Derek se trouvait dans le cercueil argenté au poignet noir. Isaiah allait être enterré aux côtés de son mari. Ils étaient morts ensemble, et désormais, ils reposeraient ensemble. Le père de Derek quitta sa chaise. C'était un maigrichon aux traits émaciés, avec une chevelure poivre et sel qui lui arrivait aux épaules. Il s'approcha des cercueils et se planta à côté d'Ike. Les fossoyeurs faisaient mine de vérifier l'état de leur pelle en attendant que ces deux traînards décident de s'en aller. Le père de Derek se gratta le menton. Un semblant de barbe grisâtre lui mangeait la moitié inférieure du visage. Il toussa, s'éclaircit la gorge, toussa à nouveau. La quinte passée, il se tourna vers Ike.
« Buddy Lee Jenkins, je suis le père de Derek. Je crois pas qu'on ait déjà officiellement fait connaissance. »
dit-il en tendant une main qu'Ike accepta de serrer. Ike Randolph. Les deux hommes restèrent ainsi quelques instants devant les cercueils, puis Buddy Lee toussa à nouveau.
Vous étiez au mariage ?
Demanda-t-il. Ike secoua la tête.
Moi non plus, dit l'autre.
Il me semble que je vous ai vu à l'anniversaire de leur fille l'année dernière.
Ouais, j'y suis passé, mais je suis vite reparti,
admit Buddy Lee en resserrant les pans de sa veste de survêtement.
Derek avait honte de moi. Je peux difficilement le lui reprocher.
Ne sachant quoi répondre à un tel aveu, Ike garda le silence.
En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir tout organisé, vous et votre femme,
reprit Buddy Lee.
Moi, j'avais pas les moyens de leur offrir une belle cérémonie comme ça. Et la mère de Derek, elle s'en fout complètement.
On n'y est pour rien. Ils avaient pris leur disposition. Apparemment, ils avaient souscrit un contrat d'assurance obsèques. On a juste eu à signer.
La vache. Vous voyez, vous organisez votre propre enterrement à 27 piges. Moi, à cet âge-là, j'étais même pas capable de faire mes lacets.
Ike effleura le cercueil de son fils du bout des doigts. Le moment d'intimité qu'il avait imaginé était fichu à présent.
« Ce tatouage, c'est le symbole des Black Gods, non ?»
demanda encore Buddy Lee. Ike examina le lion surmonté de deux sabres sur sa main droite et le mot « Riot » sur les phalanges de sa main gauche qui l'accompagnait depuis sa deuxième année à la prison de Coldwater. Il enfonça les mains dans ses poches. « C'était il y a longtemps. » se justifia-t-il.
« Vous étiez où ? Moi, j'ai fait 5 ans à Red Onion. Il y a des vrais durs là-bas. J'ai croisé quelques mecs des Black Gods. »
« Sans vouloir être désagréable, c'est pas quelque chose dont j'aime parler. »«
Sans vouloir être désagréable, si vous aimez pas en parler, pourquoi vous les faites pas recouvrir ? À ce qu'on m'a dit, ça prend à peine 1 heure. »
Ike ressortit les mains de ses poches et observa le lion noir qui se dressait sur un tracé approximatif de la Virginie. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je veux oublier pour autant. Ce tatouage est là pour me rappeler que je ne tiens surtout pas à retourner là-bas. Bon, je vais vous laisser avec votre fils maintenant, conclut-il en tournant les talons.
Vous êtes pas obligé de partir ?
Lui lança Buddy Lee.
De toute façon, c'est trop tard pour Derek et moi. Tout comme c'est trop tard pour vous et votre fils.
On peut savoir ce que vous sous-entendez là, gronda Ike. Mais Buddy Lee ignora sa question.
Quand Derek avait 14 ans, je l'ai surpris à embrasser un garçon près de la rivière, dans le bois derrière notre mobilhome. J'ai retiré ma ceinture et je l'ai fouetté comme un esclave, comme s'il avait volé un truc. Je l'ai insulté, je l'ai traité de pervers, je l'ai frappé jusqu'à ce que ses jambes soient couvertes de bleu. Et lui, il pleurait. Il me répétait qu'il était désolé, qu'il savait pas pourquoi il était comme ça. Vous avez jamais vécu ce genre d'expérience avec votre gamin? Jamais? Vous étiez peut-être un meilleur père que moi?
Pourquoi vous me racontez ça? Demanda Ike. Buddy Lee haussa les épaules.
Si on me laissait 5 minutes pour parler à Derek, vous savez ce que je lui dirais? Que je me fous d'avec qui il couche. Je m'en cogne. Et vous, qu'est-ce que vous lui diriez à votre gamin?
Ike le dévisagea, le scruta. Buddy Lee avait les yeux humides, mais aucune larme ne roulait sur ses joues. Ike serra la mâchoire à s'en fissurer les molaires.
« J'y vais !»
annonça-t-il. Et il s'éloigna à grands pas vers le parking.
« Vous croyez qu'ils vont choper celui qui a fait ça ?»
cria Buddy Lee dans son dos. Ike accéléra le pas et atteignit sa voiture au moment où la BMW noire du révérend J.T. Johnson se dirigeait vers la sortie du cimetière. L'homme d'église passa à sa hauteur sans lui accorder un regard, et Ike ne vit que son profil affilé comme une lame de rasoir. Ike se mit à courir et rattrapa le pasteur avant que celui-ci rejoigne la route principale. Il tapa au carreau et le révérend Johnson s'arrêta. Baissa sa vitre. Après avoir repris son souffle, Ike tendit la main à l'intérieur de l'habitacle. Le pasteur la prit.
Je voudrais vous remercier d'avoir célébré les obsèques de mon fils.
« Nul besoin de me remercier, Ike, »
répliqua le pasteur d'une voix de baryton qui roula hors de sa poitrine comme un train de marchandises sur des rails bien graissés. Il essaya de retirer sa main, mais Ike la tenait fermement.
« Je voudrais vous remercier, mais j'y arrive pas. »
Il serra plus fort et le pasteur grimaça.
« Il faut que je vous pose une question, révérend. » Pourquoi vous avez accepté de célébrer les obsèques de mon fils?
C'est Mia qui m'a...
Je sais très bien que Mia vous a demandé de le faire. Ce que moi, je vous demande, c'est pourquoi vous avez accepté. J'ai bien vu que vous aviez aucune envie d'être là.
Il resserra un peu plus son étreinte.
Ike, ma main... Vous avez pas arrêté de parler de péché abominable. Vous pensez que mon fils était une abomination?
Je n'ai jamais dit une chose pareille.
Pas directement, non. Mais c'est pas parce que je gagne ma vie en tondant des pelouses que je suis pas capable de reconnaître une insulte. Pour vous, mon fils était un monstre, et vous avez fait en sorte que tout le monde à son enterrement le sache. Déblatéré sur ses abominables péchés, alors que son corps se trouvait à moins d'un mètre de vous.
Ike, je vous en prie.
Une file de voitures s'était formée derrière la BMW du pasteur.
Vous avez pas parlé du fait qu'il était journaliste, ou qu'il avait obtenu son diplôme de l'Université du Commonwealth de Virginie, avec les félicitations du jury. Vous avez pas dit qu'il avait remporté le championnat de basket de l'État quand il était au lycée. Non, vous avez fait que parler d'abomination. Je sais pas pour qui vous le preniez, mais Isaiah n'est pas...
Ike s'interrompit, la gorge serrée.
S'il vous plaît, lâchez ma main,
bredouilla le pasteur.
« Mon fils n'était pas une abomination !»
conclut Ike, la voix aussi glaciale qu'un torrent de montagne. Il continua à broyer les métacarpes du pasteur Johnson avec la ferme intention de les réduire en bouillie.
« Ike, arrête !»
s'écria Mia. Ike tourna la tête. Quelques mètres plus loin, sa femme était sortie de leur voiture et le fusillait du regard. Derrière eux, 10 véhicules attendaient pour sortir du cimetière. Ike libéra enfin le pasteur, qui écrasa l'accélérateur et disparut dans un crissement de pneus. Ike ne put que s'émerveiller de la vitesse à laquelle la belle mécanique allemande entraînait le révérend Johnson hors de sa vue. Il retourna à sa voiture et s'installa au volant pendant que Mia reprenait place sur le siège passager. Elle croisa les bras sur son étroite poitrine et posa la tête contre la vitre.
Qu'est-ce qui t'a pris encore ?
Soupira-t-elle tandis qu'Ike démarrait. T'as entendu son sermon ? T'as entendu comment il a parlé d'Isaïa ?
T'es vraiment pas le mieux placé pour la ramener à ce sujet. C'est maintenant qu'il est mort que tu te décides à le défendre ?
Ike serra le volant de toutes ses forces.
Je l'aimais autant que toi, et tu le sais parfaitement.
Ah bon ? Et toi qui l'aimais tant ? T'étais où quand il se faisait emmerder matin, midi et soir à l'école ? Ah oui, j'oubliais, en prison. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il aurait eu besoin de toi. Pas maintenant qu'il est 6 pieds sous terre.
De grosses larmes roulèrent sur les joues de Mia. Ike actionnait sa mâchoire comme s'il cherchait à mordre la tension qui s'était installée entre eux.
Justement, je lui ai appris à se battre dès que je suis rentré à la maison,
tenta-t-il de se justifier.
Te battre, c'est tout ce que tu sais faire de toute façon.
Est-ce que tu veux aller le voir toi aussi ? Proposa Ike.
Non. Rentrons,
répliqua Mia dans un sanglot. Ike appuya sur l'accélérateur et sortit du cimetière.